Bonjour, notre invité Hervé Lecronier est éditeur multimédia chez CEF Éditions, enseignant-chercheur à l'Université de Caen-Normandie et membre de l'association VECAM. Ses enseignements portent sur les technologies de l'Internet et la culture numérique. Interview enregistrée à Nantes dans le cadre de la deuxième édition de l'Université d'été des mouvements sociaux et des solidarités.
Qu'est-ce qui vous a amené à vous interroger sur le numérique, je veux dire en général? C'est parce qu'au départ, vous cherchiez un outil performant pour votre métier de bibliothécaire.
C'est ce que j'allais dire. En fait, moi, j'étais bibliothécaire. C'est quoi un bibliothécaire? Ça gère de l'information et ça la rend accessible au public, si possible en dehors des règles du marché, c'est-à-dire les livres sont en lecture gratuite, etc. etc. Et je suis tombé sur Internet un peu par hasard, parce que j'aime bien l'informatique, et donc j'avais fait mon mémoire de bibliothécaire sur est-ce qu'on peut prêter des logiciels dans une bibliothèque. Alors à l'époque c'était à peu près possible en 84, mais maintenant c'est plus possible et c'est peut-être tant mieux. Donc j'avais découvert Internet comme ça, et je me suis dit mais c'est des documents, à partir du moment où c'est des documents ça concerne une bibliothèque, et comme on ne sait pas trop comment on va pouvoir s'en servir, on va créer une liste de discussion pour discuter collectivement avec les gens qui sont là, qui donc ont un accès Internet. Et en même temps, cette liste de discussion avait comme objectif de permettre la formation continue. Je crois que c'est un autre élément super important. On est tous des analphabètes de quelque chose qui est en train d'arriver. Et donc, il faut en permanence être capable d'en parler pour apprendre ensemble, quoi. Continuer d'apprendre tout le temps. Et donc cette liste de discussion qui s'appelle BiblioFR a existé à partir de 93, voilà. Ce qui m'a permis donc de suivre en fait toute l'actualité depuis ce moment-là d'Internet, et donc chacun des pas et des évolutions, et de passer en fait du moment utopique de cet Internet qui permettait une communication à distance, qui permettait de constituer des groupes, qui permettait la formation permanente, qui permettait l'accès aux documents, enfin tout ce qu'était l'Internet utopique des années 80-90, et de voir au fur et à mesure, première période, j'étais bibliothécaire, c'est la diffusion. Puis à partir des années 2000, ce qui vient en jeu, c'est la production, c'est-à-dire est-ce qu'on permet à tout le monde de s'exprimer facilement? Et donc ça a été la création des blogs, des médias sociaux ensuite, etc., qui permettent aux gens de s'exprimer facilement. Et puis à partir du tournant suivant, début des années 2010, c'est de s'apercevoir que en fait les gens s'expriment peut-être facilement, ils disent ce qu'ils ont à dire, mais c'est l'algorithme qui choisit qui va pouvoir lire. Donc ça n'est plus l'ouverture aux documents comme un principe de bibliothécaire, mais c'est l'intérêt du système qui va utiliser ce que disent les gens, ce que font les gens pour valoriser son système. Donc derrière sa publicité, sa richesse, enfin vous voyez tout le reste qui suit derrière. Et ça c'est une découverte assez essentielle, de voir que on a pu partir d'un système de communication utopique, de pair à pair, et tomber sur un système où on a quelques groupes qui se comptent sur les doigts des deux mains à l'échelle du monde, qui décident de ce qu'on peut voir ou pas.
La première étape, c'est votre mémoire, et puis après, il y a eu la thèse. Le titre de la thèse, c'est « Système d'accès à des ressources documentaires vers des antiserveurs intelligents ». Qu'est-ce que vous appelez intelligence?
Alors, attendez, il faut remettre en époque. Hein. Cette thèse, ça doit être 1989, hein. Donc c'est quand même pas récent. L'idée, c'était qu'à l'époque, on avait bien de l'information qui était inscrite dans des bases de données, mais par contre, il fallait être un peu spécialiste pour pouvoir interroger une base de données. L'idée que, comme dans Google maintenant, on écrit nos mots dans une fenêtre d'écriture et puis hop, on a des réponses, ça n'existait pas.
Parce
l'idée
qu'il
d'un antiserveur, ouais, c'était justement cette capacité de dire aux gens, vous écrivez votre question dans une fenêtre, on fait une interprétation linguistique, donc d'où le terme intelligence qui est utilisé très souvent pour dire interprétation linguistique. Et puis après, on posait la question avec le langage de requête, les trucs comme ça, aux serveurs qui existaient à l'époque, hein, les grandes bases de données, et puis on représentait les résultats avec l'idée d'une interface homme-machine, c'est-à-dire en ayant une liste de résultats, on va pouvoir dire celui-là m'intéresse, et donc relancer le système pour en trouver d'autres qui ressemblent, ce que fait maintenant tout moteur de recherche compétent. Voilà. Donc, mais à l'époque, ça méritait de faire une thèse.
Il fallait utiliser des opérateurs logiques et
voilà, c'est ça.
Et puis ça coûtait très cher. Donc lui, on mettait le temps à trouver son information, puis ça coûtait.
Exactement. Et donc l'idée de l'antiserveur, c'était de faire à la place, faciliter le travail pour que des gens puissent se servir de cette source d'information rendue disponible.
C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la logique intuitive.
Oui, aujourd'hui c'est devenu tellement banal que les gens n'imaginent pas que ça a pu être autrement auparavant. C'est un monde que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître.
À chaque fois qu'il y a apparition d'une nouvelle technologie, il doit y avoir une adaptation. Qu'est-ce qui pose problème ? C'est l'évolution technologique ou c'est l'absence d'accompagnement au changement ?
Oh là là, vaste question. Moi, je me définis un peu comme un critique de l'Internet au même sens qu'on dit critique de cinéma. La pensée critique, pour être critique cinéma, il faut aimer le cinéma. Ben, pour être critique de l'Internet, je pense qu'il faut d'abord aimer l'Internet. C'est-à-dire essayer de comprendre en quoi ce système peut nous apporter quelque chose de nouveau. Si je prends mon histoire personnelle, qu'est-ce qu'il m'a apporté ? Très vite, c'est d'avoir une vision mondiale. Or, les problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui sont mondiaux. Le changement climatique, c'est un problème mondial. La question de l'économie et de l'inégalité est une question mondiale. Le droit du travail est une question mondiale. Enfin bon, je veux dire, l'ensemble des questions auxquelles nous sommes confrontés ont une dimension qui est complètement mondiale. Et je dis bien mondiale et pas internationale, au sens où c'est pas le problème des relations entre les nations, c'est qu'on a une relation à l'univers monde auquel on est. Quelle est la seule structure qui couvre l'univers monde ? Eh bien, c'est l'Internet. L'ONU couvre l'international. Et donc, c'est très important de défendre l'ONU. Ça, je pense que c'est une des choses dont on a certainement le plus besoin aujourd'hui. Il a été fait pour faire la paix. Il n'a pas trop réussi, mais il reste aujourd'hui nécessaire pour qu'on garde une vision que tout affrontement a des conséquences sur l'ensemble de la planète. Mais à côté, on a quelque chose qui est mondial et qui est l'Internet. Alors le problème, c'est que moi je dis ça du point de vue de l'émancipation humaine, c'est-à-dire des relations entre les humains, mais il y en a d'autres qui ont vu tout à fait le bon coup en disant, vu que c'est le seul tissu mondial, c'est lui qui va servir d'expérimentation à ce qui a été lié au commerce, c'est-à-dire la création de l'OMC en 94, avant tout l'Uruguay Round, c'est-à-dire de dire que c'est les réseaux de communication, notamment de télécommunication et l'Internet, qui vont servir de modèle à cette nouvelle grille qu'on appelle le néolibéralisme des échanges mondiaux. Donc, voilà, les deux aspects sont présents en même temps, et ça depuis le début. Voilà. Donc, on a un réseau mondial, qu'est-ce qu'il peut nous apporter ? Ici, on est à l'université d'été des mouvements sociaux. Et donc, on cherche à savoir qu'est-ce qu'il peut nous apporter en termes d'émancipation. Mais il faut comprendre qu'il y en a d'autres qui cherchent à savoir qu'est-ce que ça peut leur apporter en termes d'argent, en termes de pouvoir, en termes de nouvelles guerres, en termes de... etc. Donc voilà, donc, du point de vue de l'émancipation, c'est de mettre en lien divers groupes. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'une internationale centralisée, mais bien de choses plutôt comme le Forum social mondial, des tas de lieux dans lesquels les opposants, les gens qui ont des idées sur l'avenir partout dans le monde peuvent trouver des moyens d'échange. L'enjeu des lieux comme le FSM, c'est d'être capable de faire se coordonner des activités diverses et séparées. Et l'Internet est un outil de coordination. Donc voilà, il faut qu'il serve comme outil de coordination. Après, c'est un outil de publication, et c'est vrai que tous les mouvements d'émancipation ont cherché depuis toujours. La création des premiers journaux, ça a été lié à cette idée que quand on s'oppose au roi à l'époque, eh bien, il fallait bien trouver un moyen de faire passer ses idées. Donc les lieux de publication sont des éléments absolument essentiels, et je crois à l'importance d'avoir des lieux de publication autonomes et non pas des lieux dépendants de ces fameux méga-groupes dont je vous ai parlé au début.
Et pour répondre à ma question de s'adapter à ce nouvel environnement, ça passe par de la formation, de l'éducation.
Je vais vous faire une métaphore. Retournons en l'an 500. En l'an 500, Augustin, après sa vie de débauche en Afrique du Nord, rentre à Milan et veut rentrer dans les ordres. Et là, on lui présente celui qui va être donc son maître, Ambroise. L'un deviendra Saint-Augustin, l'autre Saint-Ambroise, mais ce sont à l'époque des humains. Et la première rencontre d'Augustin avec Ambroise, il ouvre la porte et il voit Ambroise en train de lire sans remuer les lèvres. Quelque chose qu'on apprend aujourd'hui à tous nos enfants de cours préparatoire. Et Augustin raconte à quel point c'était fascinant, c'était magique. À l'époque, tout le monde, quand il lisait, articulait avec ses lèvres. Même quand il lisait silencieusement, il articulait avec ses lèvres. L'autre n'avait pas besoin, il était en relation magique et directe avec le texte. Voilà. La lecture, les pratiques, c'est aussi de la technologie, mais c'est des technologies humaines. Je pense que par rapport à Internet, la solution ne sera pas technologique. Je ne crois pas au déterminisme technologique. Je ne crois pas que c'est la technologie qui fait avancer les choses. La technologie accompagne des changements qui se font dans les pratiques sociales, les pratiques humaines, les pratiques amoureuses. Si on regarde aujourd'hui, par exemple, le changement des pratiques amoureuses liées à l'évolution de l'Internet, aux sites de rencontres et des choses comme ça, voilà. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal ? Là, moi, je ne cherche pas à juger ça. Je cherche à savoir, est-ce que ça aide à l'émancipation ou est-ce que ça aide à la domination ? Ce n'est pas tout à fait la même chose que le bien ou le mal. Il y a des émancipations qui, malheureusement, parfois, peuvent mal tourner. Voilà. Et puis, il y a des formes de domination qui, à un moment donné, unifient les sociétés quand elles doivent faire face à des choses dramatiques, comme nous venons de le connaître avec le Covid.
Un bon nombre de sites nous bloquent totalement ou partiellement leur accès si nous refusons de donner notre consentement.
Aujourd'hui, ce qu'on a mis en place, c'est une industrie du traçage. Ce n'est pas une industrie de la publication, ce que je souhaite. Ce n'est pas une industrie de la lecture, ce que je souhaite. Ce n'est pas une industrie de la mise en relation et de la communication, ce que je souhaite. Ce qu'on a mis en place, c'est une industrie du traçage. Pourquoi ? C'est important de comprendre pourquoi il faut tracer les gens. Il y a deux raisons. La première, c'est qu'on a une bande de marketeurs, de gens de la publicité, qui ont réussi à vendre aux annonceurs l'idée que si on pouvait cibler la bonne personne, ça marcherait beaucoup mieux. Donc, pour le même argent dépensé, ils auraient bien plus d'efficacité. C'est une idée qui n'a jamais marché, qui n'a jamais eu de preuve, mais bon, les annonceurs ont acheté l'idée. Donc ensuite, ils se sont tournés vers les producteurs, ceux qui diffusaient de l'information, donc principalement les médias sociaux aujourd'hui, en leur disant, si vous captez assez de traces pour pouvoir avoir un profil de vos utilisateurs, nous, on va pouvoir le comparer au profil des publicités et faire en sorte que vos utilisateurs aient que des publicités qui les intéressent. Ça, c'est le discours qui intéresse en fait l'annonceur à cibler bien. Ça, c'est la réalité. Et donc, on a mis en place une industrie du traçage autour de ça, avec des tas d'entreprises, dont par exemple le français Criteo, qui vous ne connaissez pas, vous l'utilisez tous les jours pourtant, ou il vous utilise tous les jours pourtant.
Qu'est-ce que c'est ?
C'est un système qui, en fait, travaille dans les millisecondes entre le moment où vous cliquez sur un lien pour demander une page et le moment où la page s'affiche. Dans ces millisecondes-là, il va y avoir toute une négociation qui va se mettre en place pour choisir les publicités que vous allez voir. Et cette négociation, un des acteurs majeurs à l'échelle mondiale, c'est Google, et le deuxième, c'est Criteo, qui gère vos profils, en fait, qui capte vos traces. Donc on a construit une industrie de la trace comme ça, qui en plus intéressait les États, puisque les États pouvaient se servir de ces traces comme moyen de surveiller leurs opposants. On a mis en place, en fait, un protocole qu'on appellerait, comme le titre du livre de Tristan Itô, surveillance de points /. Voilà. Donc une fois que ça c'est en place, comment on s'en sort ? Comment on se dépatouille de ça ? Alors il y a ceux qui pensent que ça va être de la technique, il faut rajouter de la cryptographie. Erreur, la cryptographie peut protéger le contenu du message, mais pas les relations, pas ce qu'on appelle les métadonnées du message. Or principalement pour la construction de profils, c'est les métadonnées qui sont importantes, beaucoup plus que le contenu. Il n'y aura pas de solution strictement technique. Alors après, il y a les serveurs Oignon. Enfin bon, il y a des tas de gens qui essayent de réfléchir à de la technique. Et c'est bien qu'on essaye de trouver des solutions techniques. Mais ça ne marchera pas. Enfin, ça pourra avancer, mais on aura dans le jeu du montant l'heure et du coffre-fort. Après, l'autre solution, si ce n'est pas la technique, ça va être la politique. C'est-à-dire quelles sont les lois qu'on peut mettre en place qui vont empêcher des gens de construire des méga-entreprises, aujourd'hui bien plus puissantes que la plupart des États. Comment on peut empêcher ça ? Règle de base, tant qu'on est en système capitaliste, c'est la concurrence. Donc il faut arrêter et faire évoluer les lois anti-monopole de manière à prendre en compte le type de monopole qu'ils construisent. Aujourd'hui, les lois anti-monopole principalement sont basées sur l'intérêt du consommateur, globalement sur le prix. Tant que le monopole n'a pas un prix de monopole supérieur, on considère que ce n'est pas un monopole et puis voilà. Sauf que c'est plus vrai, c'est plus la réalité. La réalité, c'est que quand Amazon s'installe quelque part, ça modifie toute la géographie de la ville où il s'installe, ça crée des routes, ça détruit le petit commerce. Un emploi créé chez Amazon, c'est deux emplois perdus dans la ville. Enfin, voilà. Donc ça, c'est des réalités qui ont été montrées à chaque installation de Amazon. Amazon, en s'installant aussi, crée aujourd'hui un nouveau système logistique qui va détruire le service public de la Poste. Enfin bon, tout ça. Voilà. Ça, c'est donc des règles qu'il faut prendre en compte dans l'évolution de qu'est-ce que c'est qu'un monopole. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que cette idée-là, qui était une idée marginale il y a quelques années encore, est en train d'avancer puisque Joe Biden a nommé Lina Khan, qui a fait sa thèse justement sur cette idée-là, à la tête de la FTC, c'est-à-dire l'organisme qui gère le commerce aux États-Unis. Ah, bien sûr, levée immédiate de bouclier de tous ces grands opérateurs, mais on va voir ce qu'elle va pouvoir faire, mais c'est intéressant de montrer que voilà, on peut avoir des décisions politiques à un moment donné, y compris dans le cadre du capitalisme. Après, il y a un deuxième type de décisions proprement politiques qui sont comment on protège les individus. C'est le rôle d'un État et des lois de protéger les individus, enfin, à mon sens. Donc comment on fait des lois aujourd'hui qui vont protéger, empêcher ces industries de la captation de traces de capter nos traces ? La première expérience positive de ça a été le RGPD, donc au niveau européen, bon, qui est comme toute première expérience insuffisant et surtout qui a été, on l'a bien vu très vite, détourné par la question que vous venez de poser. C'est-à-dire les entreprises disent « Ah ben oui, mais si vous ne voulez pas, vous ne voulez pas », donc vous n'avez plus accès au service. Ce qui, effectivement, dans le RGPD, est interdit. On peut penser...
Il y a les cookies nécessaires, on nous présente ça comme ça.
Oui, voilà. Pour le monde, par exemple, si vous regardez bien leurs conditions générales d'utilisation, les cookies publicitaires sont des cookies nécessaires, puisque le monde, les journaux en général, vivent de la publicité. Donc voilà, on est dans cette situation où on ne peut pas non plus aisément dire « je refuse tout », alors que c'est écrit dans la loi qu'on devrait pouvoir le faire, etc. La loi, ça ne suffit pas. Il faut ensuite... la mettre en œuvre, la mettre en application et trouver des sanctions pour ceux qui ne respectent pas la loi. On est en train d'y avancer. J'espère que, par exemple, la CNIL, qui est en charge de ça, va accentuer les sanctions. Maintenant, voilà, il y a aussi le fait qu'à un moment donné, entre une nouvelle loi et son application, il y a toujours des délais parce qu'on a en face des lobbies très puissants. La loi, si elle vient après un travail des mouvements sociaux, il y a les lobbies qui interviennent pour dire « Ah oui, mais il y a le décret, il faut qu'il soit différent de ceci, de cela. Enfin, » on le voit sur les pesticides, on le voit sur toutes les choses un peu où des mouvements sociaux ont porté des avancées inscrites dans la loi. Ben, au lendemain, les lobbies, eux, essayent de détricoter la loi. D'où le fait qu'on se retrouve aujourd'hui avec ces questions à chaque fois qu'on ouvre un site et on répond « Oui, j'accepte parce que de toute façon, on en a marre. »
Oui, puis c'est fastidieux de tout cocher.
Voilà. Alors, ce qui devrait évoluer, c'est que dans le mode d'emploi maintenant, il doit y avoir un bouton « tout refuser ». Et les sites qui n'ont pas un bouton « tout refuser » sont hors la loi aujourd'hui. Donc tôt ou tard, ils finiront par tomber dans les sanctions qui vont avec.
Un certain nombre d'utilisateurs sont complices ou volontaires pour être tracés. Je prends un exemple vraiment au hasard d'un intervenant de l'Université d'été des mouvements sociaux et des solidarités qui va tweeter avant de partir. Gare Montparnasse, train pour Nantes et l'Université des mouvements sociaux, je cause numérique et émancipation toute l'après-midi, y a de quoi dire. À la librairie de l'Université d'été des mouvements sociaux à Nantes, vous devriez trouver de bons livres. Et comme je suis là cet après-midi pour parler de numérique, d'alternatives et donc de commun, je peux dédicacer celui-ci. Bon, il y en a 3 exemplaires, je ne risque pas l'entorse du poignet.
Je crois que je le connais celui-là. Alors ça, est-ce que, comment dire, encore une fois, la trace, c'est pas le contenu. Le contenu, ça, c'est ce que je dis aux gens qui me suivent sur Twitter. D'accord ? C'est le contenu. Et le contenu, il est public, ça ne me gêne pas. Au contraire, je dis que je suis là à l'Université d'été des mouvements sociaux, je dis que je suis éditeur, je dis que j'ai écrit un bon bouquin, je dis enfin, des tas de choses voilà, qui me concernent, tout comme j'accepte de répondre à vos questions. Tout ça, c'est du contenu. La trace, c'est justement ce qu'on peut inférer des relations, des métadonnées. pas du contenu. Le contenu, ça n'a pas tellement d'importance. Ce qui est plus important, c'est de savoir qui va avoir répondu, qui va avoir fait un sourire, etc. sur Twitter. Et donc là, ça va créer un espèce de profil où on va se dire, oui, ce gars-là, et puis tous les autres, globalement, ils vont aimer à peu près des choses semblables, et donc, en conséquence, ils vont accepter les mêmes publicités.
Vous êtes conscient que vous contribuez à dégrader votre bilan écologique.
En faisant quoi? En prenant le train?
En tweetant, en prenant le train aussi.
Oui. Mais toute activité humaine a un coût énergétique. Absolument toute activité humaine. Donc je crois qu'avec les bracelets Fitbit, vous savez, ces bracelets qui vous captent l'attention et tout, ou votre Apple Watch, tout ça, vous pouvez savoir à quel moment vous faites l'amour. Enfin, le système peut savoir. Donc voilà, toute activité humaine demande de l'énergie. Après, la question est de savoir, est-ce que cette énergie est utilisée à bon escient ou pas ? Construire des réseaux humains, justement raconter les choses qu'on se raconte, ce que les Anglais appellent la petite parole, small talk, ces petites choses au quotidien qui ne sont pas forcément d'une grande importance, mais c'est ça qui constitue les communautés humaines. Et donc, on a un outil nouveau, qui est l'Internet. Il faut se battre pour qu'il soit le moins énergivore possible. Mais en même temps, il faut essayer de faire en sorte, et c'est là que c'est un problème écologique, il faut essayer de faire en sorte qu'on remplace toute une série d'activités consommatrices d'énergie par cette nouvelle activité consommatrice d'énergie. Or, en écologie, on sait bien, il y a un système qui s'appelle l'effet rebond, qui est que quand on rend quelque chose de plus facile, qui consomme moins, alors on va en augmenter l'usage. Et donc, si chaque élément consomme moins, en fait, l'augmentation de l'usage fait que ça ne marche pas. Et donc, aujourd'hui, on continue à faire des déplacements, alors même qu'on a l'Internet qui permettrait de limiter les déplacements. Bon, voilà. Je peux rajouter un truc qui est marrant. Vous avez fait une belle liste de ce que j'ai raconté sur Twitter ce matin, merci à vous. Mais vous avez oublié un message très important, un petit message que j'ai retweeté, que j'ai trouvé très intéressant, qui est quelqu'un qui demandait, un étudiant qui demandait à Margaret Mead, qui est une très grande anthropologue des années 40-50, et il lui demandait, mais quels sont les premiers signes qu'il existe une civilisation? Il s'attendait à ce qu'on réponde, on va trouver des pierres taillées, Et elle dit non, c'est le jour où on va voir que quelqu'un peut guérir d'une fracture du fémur. Parce que chez les animaux, on meurt quand on a un membre fracturé. Donc il a fallu, pour que l'humain survive, que quelqu'un s'occupe de lui, que quelqu'un le nourrisse, que quelqu'un le protège, le temps que ça se recolle. Et ça, c'est un vrai signe de civilisation. Voilà. Et aujourd'hui, la civilisation, c'est s'occuper de son voisin. Et c'est le care. Je crois beaucoup que développer un nouveau projet d'émancipation, c'est développer une politique du care. Comment est-ce que les réseaux Internet, qui sont devenus des réseaux d'agressivité, comment peuvent-ils servir à construire une politique du care? Ça, voilà, c'est un vrai challenge pour moi. Je n'ai pas la réponse, je ne sais pas si ça peut marcher. Je sais que ceux qui gagnent de l'argent préfèrent de l'agressivité, ça marche mieux parce que les gens restent accrochés quand il y a du ping-pong sauvage. Et donc, ils vont consommer de la publicité, du temps, etc. etc. Mais moi, j'espère toujours qu'on peut utiliser ces réseaux-là pour construire cette politique du care. Et dans plein d'endroits, ça s'est fait. Je ne donnerai qu'un exemple extrait du livre de Zeynep Toufekci qui s'appelle « Twitter et les gaz lacrymogènes » où elle raconte comment, dès les premiers jours des printemps arabes, notamment sur la place Tahrir, au Caire, comment des gens ont utilisé les réseaux pour se faire livrer des médicaments pour aider les gens sur place, des sparadraps, tout le matériel médical qui a permis, parce qu'il y avait quand même des affrontements physiques très violents, de mettre en place les street medics. C'est qu'un exemple parmi d'autres, mais on voit bien que cette capacité de coordination dont j'ai parlé auparavant peut être utilisée pour construire une politique du care, une politique de l'attention à l'autre.
Hervé Lecronier, l'auteur d'En commun, livre paru aux éditions CF, où il interroge la manière de pouvoir
réfléchir autrement au mode d'organisation, au mode de gouvernance d'une société. Et il m'est apparu, dès le début des années 2000, que cette question des communs, revenait à l'ordre du jour et que justement Internet montrait qu'il pouvait exister des formes de gouvernance en commun, c'est-à-dire coopérative, ouverte à la discussion, avec une capacité à mettre les questions en débat avant de les trancher. C'est ça qui me semble essentiel. Et donc voilà, dans le livre, je raconte toute une série d'exemples. Certains sont du côté des communs fonciers, des communs liés à la gestion de la terre. D'autres sont liés aux communs de la connaissance, c'est-à-dire comment, par exemple, une des questions sur lesquelles j'ai pas mal travaillé dans les années 2000, c'est comment un savoir scientifique peut être partagé. Comment faire en sorte qu'une découverte scientifique qui est faite dans un pays riche puisse servir dans un pays pauvre ? C'est des vraies questions de mise en commun. Ça devrait être évident, n'est-ce pas ? D'ailleurs, la preuve, nous avons un gouvernement qui a décidé de faire une troisième injection aux gens qui n'en ont pas forcément besoin, plutôt que d'aller envoyer des doses en Afrique où ils en ont sacrément besoin, au risque même que l'ensemble de l'épidémie aujourd'hui connaisse des nouveaux variants là où il n'y a pas de vaccin, pas de protection et qui vont nous revenir. Voilà, donc tout ça c'est d'une grande absurdité, mais c'est le modèle dominant aujourd'hui qui est un modèle de la propriété. Et face à ce modèle de la propriété, je pense qu'il est important de développer le modèle de la mise en commun. Ce qui n'est pas contradictoire avec le fait qu'il y ait certaines formes de propriété, je veux dire, y compris certaines formes. Moi je vends des livres. Et puis j'en mets une partie en commun, il y a des extraits qui sont toujours disponibles. Au bout d'un certain temps, on fait un livre pub sans DRM, les gens ils peuvent le copier. Bon voilà, c'est, disons que depuis le noir et blanc, on a inventé la couleur, c'est pas plus mal.
Il y a un certain nombre de vos cours, vos interventions qui sont accessibles gratuitement sur Internet.
Ils ne sont pas accessibles gratuitement, c'est pire que ça.
Ah bon ?
Ils sont accessibles par des gens qui peuvent les télécharger, les découper, s'en servir. Ce sont des ressources éducatives livres. J'ai été payé pour donner un cours. Ce cours, il ne m'appartient pas. Il est certes la marque de ma personnalité, donc j'aime bien qu'on dise que c'est moi qui l'ai fait, mais il ne m'appartient pas. Il appartient à la société qui m'a payé, qui m'a financé. Donc il est mis sur Internet et les gens peuvent s'en servir. C'est ça surtout qui est important. La gratuité, ça peut être aussi un piège parce que c'est un prix d'appel, la gratuité, qui va se traduire en fait derrière par le fait que les gens vont vous vendre quelque chose. Là, non, c'est... Bah, vous voulez le prendre, vous voulez vous en servir, découper des morceaux. J'ai même connu malheureusement des gens qui me font dire le contraire de ce que je dis. Vous savez, quand on découpe les morceaux, c'est toujours possible. Donc voilà, bon, tant pis, ça, c'est un risque à prendre et qui mérite d'être pris. Parce qu'en échange, bah, voilà, on permet aux gens de se resservir d'un savoir qui a déjà été financé par la société. Et si tous les savoirs déjà financés par la société étaient rendus disponibles à toute la société, ce qu'on appelle l'open access, ce qu'on appelle l'open data, ce qu'on appelle tout ça, je pense qu'on pourrait éventuellement changer pas mal de choses.
Merci à Hervé Lecronier, éditeur multimédia, enseignant-chercheur à l'Université de Caen-Normandie et membre de l'association VECAM pour sa libre participation à ce programme.
C'est pas mal l'Internet, ça m'a permis de préparer cette interview.
C'est là qu'il y a de l'information aujourd'hui. Hein. Je veux dire, c'est quand même une chose assez importante à se rendre compte, c'est qu'il y a beaucoup de fausses nouvelles, il y a beaucoup de choses comme ça, mais il y a aussi les vraies. Et que si on veut avoir un débat contradictoire, c'est-à-dire un débat scientifique, il faut aller chercher les articles scientifiques tels qu'ils ont été mis sur les médias sociaux ou sur les sites. Je crois beaucoup plus aux sites blog, aux sites de presse, aux sites, disons, de gens qui affirment qui ils sont pour dire telle chose, plus qu'au bavardage. Je veux dire, le bavardage, il crée des relations humaines. Et les médias sociaux, ils doivent être là. Moi, je les utilise pour avoir contact avec des gens que je ne vois plus, malheureusement. Donc voilà. Mais je suis content de savoir qu'est-ce qu'ils font. Mais après, pour la vraie information, ce n'est pas le bon lieu. Ce n'est pas le bon lieu. Et ça, c'est important qu'on s'en rende compte. Pour la vraie information, il faut que chaque groupe, quelle que soit l'opinion de ce groupe en question, assume de son point de vue, avec son nom, son objectif. Voilà. Et puis... Après, il y aura un débat comme ça.
Merci.
Merci à vous.